Bonjour, bienvenue dans ce cours d'anthropologie sociale et culturelle. Avant de commencer le cours, dans cette introduction, je vais me présenter. Je m'appelle Hélène Nicolas. Je suis docteur en anthropologie et je suis spécialiste de la Nouvelle-Calédonie notamment. J'ai travaillé en effet principalement sur cette île qui est une île d'Océanie, donc qui se situe au nord-est de l'Australie, comme vous le voyez sur la carte. Et en Nouvelle-Calédonie, j'ai travaillé parmi la population Kanak de Lifou, Lifou étant une des îles de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Donc j'appellerais souvent la Nouvelle-Calédonie Kanaky-Nouvelle-Calédonie, car c'est une île en cours de décolonisation. Donc c'est un territoire français actuellement qui est en cours de décolonisation. Et donc le nom qui est demandé par les indépendantistes kanak, excusez-moi, est la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Donc je travaille sur une des populations kanak de Nouvelle-Calédonie, donc il y en a plusieurs en Nouvelle-Calédonie, qui habitent pour une partie sur l'île de Lifou et pour une partie à Nouméa, dans la grande ville de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, dans la capitale. Donc, je vais vous montrer quelques photos de Lifou. Lifou est le terrain principal de mes recherches. C'est une île corallienne qui est relativement plate, qui fait environ 50 km de long sur 20 de large. Et donc, où habite une population kanak? Donc, dans des villages dont on voit ici un terrain familial. On voit un terrain familial d'un de ces villages. Donc, ils ont terrains familiaux qui sont composés globalement d'une maison en dur, d'une maison en paille, comme vous le voyez, qui est un endroit où l'on dort, et de sanitaires et de terrains où on fait la cuisine qui sont en extérieur. Alors, à Lifou, j'ai mené plusieurs enquêtes sur différents thèmes, mais principalement sur les questions de genre, c'est-à-dire sur les rapports sociaux de sexe en pays kanak. Ma première étude portait sur les associations de femmes kanak de Lifou, la seconde sur la réussite scolaire des filles kanak de Lifou, et ensuite j'ai effectué ma thèse de doctorat sur le mariage et le genre à Lifou, notamment sur l'impact de la colonisation sur les rapports de genre instaurés par le mariage. Vous pouvez retrouver des articles et des documents que j'ai mis en ligne sur un site de recherche qui s'appelle recherche-nouvelle-calédonie.org. Et j'ai par ailleurs effectué des recherches sur la France, donc d'une part sur les luttes pour le droit à l'avortement à Grenoble de 1960 à nos jours, et d'autre part actuellement sur les doctorats sur le genre en Bretagne. Donc, j'ai réalisé des enquêtes aussi bien au bout du monde, donc en Nouvelle-Calédonie, qu'au bout du couloir. Et je considère que l'anthropologie et la sociologie sont des sciences très proches. Donc, l'anthropologie, vous avez déjà fait de l'anthropologie l'année dernière, normalement. Et qu'est-ce que l'anthropologie? Alors, l'anthropologie, c'est une science humaine et sociale, tout comme la sociologie, l'histoire, l'économie, qui prend comme objet d'étude la diversité des cultures. En anthropologie, on va avoir tendance à étudier la diversité culturelle, différentes cultures, et à comparer entre elles les organisations sociales. Donc c'est très proche de la sociologie dans le sens où notre objet d'étude, ce sont les organisations sociales. Nous faisons du travail de terrain sur des sociétés contemporaines, généralement comme en sociologie. Mais cependant, nous axons souvent sur la diversité culturelle et sur la comparaison entre les différentes sociétés. Je tiens à vous dire tout d'abord que je suis très heureuse de donner cet enseignement parce que pour moi, l'anthropologie a plusieurs utilités et une science particulièrement intéressante, et ce, à deux titres. Tout d'abord, l'anthropologie qui consiste en l'étude de la diversité des organisations sociales et des sociétés et en leur comparaison, permet de réellement comprendre que l'organisation sociale dans laquelle nous vivons est une option dans une myriade de possibles. En effet, l'anthropologie nous permet de voir à quel point ce que nous considérons comme normal, naturel, immuable est en fait bien souvent culturel et donc soumis au changement. Par exemple, comme nous le verrons dans ce cours, le fait d'avoir un père et une mère peut sembler tout à fait naturel, normal, universel. Or, quand on fait de l'anthropologie, on se rend rapidement compte que les individus peuvent considérer qu'ils ont plusieurs pères et plusieurs mères dans une société qui est donc autre, qui est différente de la nôtre. Donc, faire de l'anthropologie permet, ce que j'ai marqué sur la diapositive, de prendre conscience que tout ou presque est culturel et de prendre donc du recul sur sa propre société, ses propres normes sociales. C'est pour ça que c'est très important de faire de l'anthropologie, notamment quand on fait de la sociologie, pour pouvoir voir à quel point ce que nous étudions est en fait une norme sociale. Ce sont des normes sociales qui donc sont soumises au changement temporel et aussi géographique. L'anthropologie, par ailleurs, deuxième point, est une science qui permet de prendre du recul sur sa propre société et donc qui permet aussi de prendre du recul vis-à-vis des stéréotypes occidentaux sur la différence culturelle. En effet, comme dans chaque société, nous avons des idées sur d'autres sociétés. Il existe un sens commun, si l'on reprend les mots de Durkheim ou une doxa, si l'on reprend les mots de Pierre Bourdieu, c'est-à-dire un ensemble d'idées, de stéréotypes et de manières d'appréhender la différence culturelle, donc tout un ensemble d'idées qui est propre à notre propre société. Et donc l'anthropologie permet aussi de déconstruire ce regard sur les autres, de le décentrer, de remettre en cause l'ethnocentrisme ou encore de décoloniser notre regard. Donc pour moi, c'est une science à deux titres tout à fait captivantes. Pour présenter l'enseignement à présent, donc nous aurons quatre sessions de cours magistraux, l'introduction que nous sommes en train de voir, puis la session 1 qui est intitulée « La pensée de la différence culturelle ». Nous verrons dans un premier temps les grands courants de l'anthropologie, nous rappellerons ce que vous avez vu l'année passée avec Justin Gandoulou. En deuxième point, nous verrons les rencontres et la formation de stéréotypes occidentaux, l'exemple de l'Océanie. Nous verrons comment l'anthropologie a été formée au sein des expériences de rencontres interculturelles, qui se sont développées tout au long du 18e, 19e siècle. Et donc je prendrai l'exemple océaniste pour voir comment cela s'est fait très concrètement. Dans la session numéro 2, nous allons parler d'un stéréotype justement occidental qui s'est formé sur les sociétés autres, qui est le stéréotype de la Vahinée. Et donc cette session s'intitule « Le mythe de la Vahinée, l'anthropologie du genre et de la parenté ». Dans un premier temps, nous verrons comment s'est formé le mythe de la Vahinée et comment nous pouvons le déconstruire, notamment avec l'anthropologie du genre et de la parenté. Et donc, nous rentrerons dans le détail de qu'est-ce que l'anthropologie du genre et qu'est-ce que l'anthropologie de la parenté en deuxième et troisième point. Dans la session 3, nous verrons un autre stéréotype occidental qui est le mythe du sauvage. Et donc, nous verrons aussi l'anthropologie économique et politique à cette occasion-là. Donc, dans un premier temps, tout comme pour le mythe de la Vahinée, nous allons déconstruire le mythe du sauvage ou du primitif. Puis nous allons voir des éléments fondamentaux de l'anthropologie économique et de l'anthropologie politique contemporaine qui nous permettent de déconstruire ce mythe. En session 4, nous poserons la question de comment décoloniser l'anthropologie. Nous verrons tout d'abord les colonisations et les décolonisations, quelques grands points historiques. Puis nous verrons comment l'anthropologie s'est petit à petit appropriée d'autres terrains, des nouveaux objets d'études et de nouvelles méthodologies qui tend finalement une anthropologie relativement ancienne et liée au monde colonial pour devenir une anthropologie plus moderne et contemporaine. Et donc en troisième point, nous parlerons de ce que j'appelle la fin de l'exotisme. Donc voici pour l'introduction à cet enseignement et nous allons commencer à rentrer dans la session 1 dès à présent. Merci.